Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Samedi 21 avril, au Lac, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, le groupe Féminisme et Décroissance des OC62 vous invite à une matinée d'échanges et de réflexions. Ce groupe a choisi d'interroger cette année la question du travail. Il s'associe pour cela au Lac, le lieu autogéré de Liévin. Après avoir exploré le rapport entre capitalisme et féminisme, les décroissantes et décroissants se penchent sur la vie des femmes qui, au cours du XXe siècle, ont investi le monde du travail salarié. Émancipation, indépendance économique ou double journée, exploitation, inégalité? Quel constat quelques décennies plus tard? Est-ce vraiment la vie dont on rêve quand on est féministe et décroissante? C'est donc au Lac le samedi 21 avril de 10h à 12h30 sur la thématique travail, féminisme et décroissance. Lundi 23 avril, le planning familial du Pas-de-Calais vous invite à parler plaisir. C'est avec le spectacle Turlute ce soir à 18h30 au Lac, spectacle de Sandrine Haineuse et Ratiba Moukri, qui se base sur une lecture érotique que les deux femmes viennent lire pour nous. Deux femmes pour lire des histoires de héros en mal d'amour physique au début de cette soirée. Elles découvrent presque en même temps que le public des histoires érotiques dans lesquelles le plaisir féminin a la part belle. Elles sont un peu troublées, elles ne pensaient pas que c'était aussi détaillé. Un léger malaise s'installe qu'il faut absolument maîtriser. L'une se réfugie derrière un masque de conférencière pincée et quelque peu chagrinée et avance dans la lecture courageusement, mais l'autre n'essaye même pas de le cacher et se laisse déborder par les émotions qui la traversent. L'une se livre au plaisir innocent et enfantin du ressenti, quand l'autre se targue d'être une adulte aux sentiments parfaitement maîtrisés. Évidemment, ça ne peut que déraper. C'est donc le spectacle Turlute, présenté à l'initiative du planning familial dans le cadre des soirées que le planning organise et qui a pris pour thème ce jour-là le plaisir. C'est le lundi 23 avril à 18h30 au Lac, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Jeudi 26 avril, à 19h, à l'hôtel de Guine à Arras, rue des Jongleurs, c'est à une lecture musicale que nous sommes conviés dans le cadre du prologue du 17e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale qui se tient à Arras le 1er mai 2018. Il y a une série d'initiatives et donc jeudi 26 avril, lecture musicale de Gaston Couté, un poète pour aujourd'hui. Qui est Gaston Couté ? Un de ces chansonniers montmartrois connus des amateurs de poésie ou de chansons fin de siècle, un anarchiste de culture paysanne que fréquentent encore ceux qui ne veulent ni Dieu ni maître. Gaston Couté fait pourtant partie du patrimoine culturel des classes laborieuses. Le message de Gaston Couté est vivant, il résonne avec l'actualité. Colère contre le formatage social, sensibilité à la nature, attention aux conditions d'existence faites aux femmes et à tous les sans-voix. Paul Masson le fait revivre à travers son nouveau livre « Gaston Couté, un poète d'aujourd'hui ». Avec des lectrices, des chanteurs et un accordéoniste, il propose de faire ou refaire découvrir ce personnage paradoxal en son temps. Une soirée exceptionnelle pendant laquelle l'auteur nous accompagnera sur les chemins de traverse. Une soirée aux côtés du poète Gaston Couté. C'est donc jeudi 26 avril 2018 à 19h à l'hôtel de Guine d'Arras, rue des Jongleurs. Vendredi 27 avril à 20h au lac de Liévin, c'est une conférence gesticulée intitulée « Rassurez-vous, vous êtes suivis » dans le cadre des conférences gesticulées organisées par l'association L'Étincelle. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, j'ai rencontré quelques institutions civiques et aujourd'hui je me dis que faut qu'on s'applique à se réapproprier collectivement le schmilblick. Alors, entre vous et moi, je mets mon jeu en jeu, tapis, et tant pis pour mes émois. Je prends mon errance par les cornes et j'en joue une conférence encore. C'est donc vendredi 27 avril au Lag à 20h, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Vendredi 27 avril, premier Chapeau Débat. Chapeau Débat, c'est une initiative de notre radio, Micro Rebelle. Il s'agit de rencontres débats mensuelles entre associations, groupes ou individualités diverses et parfois divergentes, mais justement pour mobiliser ce qu'on appelle une convergence des luttes. Dans notre idée, cela prend forme de cette manière. Nous mettons dans un grand chapeau les noms de collectifs militants investis dans la lutte sociale, dans des projets alternatifs, dans la remise en question des rapports de domination, tout cela dans le secteur du bassin minier. Ensuite, nous tirons au sort le nom de deux groupes. Selon les noms choisis, nous réfléchissons à une problématique qui fait s'entrecroiser les enjeux et les réflexions de ces groupes. Tout ça se poursuit dans les studios de Micro Rebelle à l'occasion d'une rencontre en studio. Nous voyons ici que c'est ce genre de rencontre qui permettra d'alimenter nos réflexions dans un but qui nous anime tous, la transformation sociale, et que cela devrait au minimum permettre d'échanger sur nos expériences de lutte. Cette proposition de Micro Rebelle a d'ores et déjà suscité l'intérêt de plusieurs collectifs militants ou associations de lutte. C'est ainsi que nous ont répondu favorablement le LAG, Au Secours 62, l'association Rivière Nature et Patrimoine, le Planning Familial du Pas-de-Calais, Culture et Liberté, CLIS 21, les Objectrices et Objecteurs de Croissance du Pas-de-Calais, Sud Éducation 62, Attaque Artois-Ternois, ainsi que plusieurs militantes et militants à titre individuel. À partir de l'ensemble de ces propositions, le chapeau, et une main innocente bien sûr, ont rendu un premier verdict et ce sont les associations Au Secours 62 et Culture et Liberté qui ont été tirées au sort et qui se retrouveront en studio pour une émission en direct le vendredi 27 avril à 19h. Avec ces deux premiers invités, ce sera l'occasion de prendre le temps de se présenter, de présenter les collectifs, leurs actions, leurs objectifs, que l'on apprenne à se connaître. On pourra peut-être faire un comparatif de l'organisation des collectifs. Qu'est-ce qui chez l'un peut inspirer l'autre ou y être transposé ? Essayons de faire dialoguer les militantismes. Ensuite, il faudra trouver le terrain de la convergence. Un adversaire commun, par exemple le capitalisme ou ses représentants sur Terre. Ou bien des objectifs communs. L'autogestion, la réappropriation des ressources, l'éducation du peuple par le peuple. Et ce qui motiverait d'unir les forces. Enfin, Il faudra se poser la question des moyens de cette convergence, peut-être même de sa possibilité. Comment faire coïncider l'éducation populaire et la réappropriation de la ressource aquatique, par exemple? Il s'agirait de resituer les mouvements de lutte dans un horizon concret où il est effectivement possible de se retrouver pour agir. Tous ces questionnements, et bien d'autres, pourront donc être abordés à l'occasion de notre premier chapeau débat, le vendredi 27 avril à 19h, dans les studios de Micro Rebelle au 197 bis, rue Émile Zola à Liévin. Nous précisons pour nos auditrices et auditeurs que chaque enregistrement de chapeau débat est ouvert et qu'il vous est donc possible d'assister dans le public à ce premier échange le vendredi 27 avril à 19h à Micro Rebelle. Dans le cadre du 17e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, qui a lieu le 1er mai à Arras, l'association Colère du Présent est heureuse de vous inviter le samedi 28 avril de 14h30 à 17h30 à l'hôtel de Guine rue des Jongleurs à Arras pour discuter sur la thématique suivante « Quel avenir pour nos campagnes ?» Entre poubelles géantes, aménagements délirants, fermes, usines et autres projets faramineux, il est urgent de se poser la question de l'avenir de nos campagnes. Parce qu'il s'agit autant de notre rapport à la nature, à l'environnement, que de questions d'alimentation, d'hygiène et d'économie, comme le résume bien Aude Vidal. La réduction des relations entre êtres humains et animaux à un rapport de domination fait perdre de vue celui de la soumission toujours plus poussée de toutes et tous à la société industrielle. Le monde se referme, la liberté cède le pas devant le contrôle systématique, les relations sociales deviennent toujours plus impersonnelles et inhumaines. Au fond, ce que nous faisons subir aux animaux, une vie administrée, nous l'infligeons à nous-mêmes. Un point de vue critique de l'individualisme, pas seulement anticapitaliste, est alors nécessaire. Le débat se terminera par la lecture de « Nous étions debout et nous ne le savions pas » par son autrice Catherine Zambon. C'est donc une après-midi de débat en présence des collectifs Novicen, Eves, Dessican, Burstop, d'éleveurs et agriculteurs de la région, de la Confédération Paysanne, avec la participation de Pierre Rose, Virginie Maris, Gaspard Dalins et Catherine Zambon. C'est le samedi 28 avril de 14h30 à 17h30 à l'hôtel de Guine à Arras, rue des Jongleurs. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Day Past par Inclosing. C'est de l'instrumental rock. Thank you. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur les luttes en cours à la SNCF. Alors que chaque soir à 20h et pour de longues minutes, on voit les caméras de la télévision se tourner en direction d'usagers exténués qui crient leur colère contre les grévistes, Micro-Rebelle choisit le camp des travailleuses et des travailleurs qui luttent pour leurs conditions de travail, pour la défense du service public et pour un travail qui ait du sens, à l'opposé du travail écrasé par un management absurde et l'obsession du rendement. Ainsi, vous pourrez trouver sur notre site plusieurs reportages qui donnent la parole à des salariés, à des syndicalistes et également à des usagères et usagers. Dans le reportage qui suit, Micro-Rebelle vous propose de revenir sur la mobilisation des cheminots de ce printemps de lutte sociale. Nous donnons la parole à un retraité des chemins de fer. Nous vous présentons l'avis contrasté de militants Sudrail sur la grève alternée et l'emploi statutaire. Nous écoutons le représentant local de la CGT sur la bataille des chiffres et l'intervention d'un sénateur du Pas-de-Calais. C'est un reportage de Luc.
Lors des journées de grève, les différents syndicats de cheminots du bassin minier se réunissent sur le parvis de la gare de Lens. Ce lundi 9 avril, toujours mobilisés contre la réforme de la SNCF qui prévoit entre autres la suppression du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés, l'ouverture à la concurrence du chemin de fer, l'ouverture du capital de la SNCF et des fermetures de lignes. Nous sommes allés à leur rencontre pour évoquer la grève en cours, la stratégie de grève alternée et la bataille médiatique qui s'engage avec pour objectif l'opinion publique. Vous entendrez donc successivement Jean-Claude, retraité du chemin de fer et militant CGT, deux membres du syndicat Sudrail. Mais pour commencer, Franck Guérardel lors de son allocution au mégaphone.
Donc je vais vous donner un petit peu les derniers chiffres qu'on a eu, mais bien sûr prendre avec des pincettes, parce que c'est des sources issues de sources médiatiques que nos dirigeants SNCF ont transmis. Donc de sources médiatiques, hier, on était 43% au niveau national tout service, 67% de mobilisation chez les contrôleurs, 76% de mobilisation chez les roulants, 30% dans les postes d'aiguillage. Donc vous voyez, les chiffres sont quand même un petit peu en baisse, mais vraiment un petit peu par rapport à la semaine dernière. Hein. On sent quand même que la mobilisation est toujours là. Le gouvernement et la direction vont tenter toutes les manœuvres possibles pour laisser croire à un amoindrissement de la mobilisation et à renverser l'opinion publique. Concernant le statut, le ministre redit que les cheminots de la SNCF coûtent trop cher. Les cheminots de la SNCF coûteraient 30% plus cher qu'un salarié d'une entreprise de droit privé, dont 8% à cause du statut des cheminots. Poussée dans ses retranchements, elle s'est engagée à transmettre l'étude de la SNCF sur le surcoût du statut. J'ai entendu également ce matin notre président s'exprimer au sujet de la dette. Hein. Moi, je vais lui rappeler peut-être aussi une chose. Hein. C'est que cette dette qui représente 52 milliards, eh ben, tous les jours, c'est 3200 euros par minute qui sont reversés en intérêts aux banques. Hein, ce qui représente 1,7 milliard d'euros par an.
Je suis Jean-Claude Fauquez, je suis secrétaire adjoint des retraités CGT.
Comment vous voyez cette grève du mois d'avril avec la réforme de la SNCF?
Les cheminots, dans la mesure où ils attaquent leur statut, il est bien évident qu'ils réagissent. On a eu l'expérience en 1953 avec le gouvernement Loniel. On l'a eu avec en 1995 avec le gouvernement Juppé, Rocard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reprend la même chose. Et petit à petit, je pense que les cheminots, même si ceux qui travaillent, ils vont prendre conscience du danger qu'il y a pour demain. Pour les acquis obtenus depuis des années et qu'ils perdraient tout. Quoi. Donc moi je pense que même les retraités aujourd'hui sont concernés parce qu'on ne veut pas de la privatisation, la SNCF. Ils nous proposent une ESA, nous on n'en veut pas. On ne voit pas la raison pour laquelle on doit faire une rentabilité financière alors que on a quand même fait 1,3 milliard de bénéfices Donc ça prouve bien que les cheminots, ben, on n'est pas des fainéants, comme Macron dit. Nous ne sommes pas des fainéants. Voilà.
Par rapport à d'autres grèves précédentes, pour les mêmes motifs ou pas, est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec celles qui se déroulent en ce moment ?
Aujourd'hui, il n'y a pas que nous. C'est tout le service public qui est en cause. Aujourd'hui, on a même les étudiants. Il suffirait qu'ils viennent avec nous de façon à faire un grand mouvement pour faire reculer ce gouvernement, de dictature. Il est vrai que le rapport de force, il faut l'avoir. Bon, alors à la télévision, forcément, ils essayent de démobiliser les cheminots, mais aussi mettre en opposition les usagers avec nous. Donc, il est bien évident que on peut, si on arrivait à faire un mouvement vraiment populaire, mais aussi de masse, le gouvernement il serait obligé de reculer, parce que qui gouverne, c'est le peuple. C'est le peuple. Ils ont été élus par le peuple. Et ils doivent écouter le peuple.
Et vous croyez à l'issue victorieuse de cette mobilisation ?
Ouais, moi je pense que, d'autant plus que cette stratégie de façon à faire la grève aujourd'hui est différente par rapport à ce que moi j'ai connu. En 86-87, on avait fait une grève continue de 29 jours. Quand on a la fiche de paye à la fin du mois, et je vous dis pas bonjour les dégâts. En 95, c'était pareil. Là, on a fait grève pendant 26 jours. Mais à la fois, aujourd'hui, c'est totalement différent. Quand on fait grève, deux jours comme en ce moment, on perturbe à la fois les services, mais aussi, c'est le surlendemain. Bon, il est bien évident que les camarades, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les cheminots ne sont pas payés quand ils font grève. Si c'était le cas, on ferait grève du 1er janvier au 31 décembre. Hein, ça, c'est clair.
Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de grève alternée en termes d'efficacité et en termes de pression sur le gouvernement ?
Bah, il est encore un peu tôt pour parler ça, parce que on n'est que sur le deuxième mouvement. Sur le deuxième mouvement, sur les deux jours de grève tous les cinq jours. Je pense qu'il faut voir un peu plus dans la longue durée, voir comment ça va se passer par la suite. Si le gouvernement ouvre de vraies négociations ou continue à faire la sourde oreille. Mais s'il faut durcir le mouvement, je pense qu'au bout d'un moment, le mouvement va se durcir. Et pourrait partir sur une reconductible totale.
Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé cette stratégie de grève alternée ?
Pour mon syndicat, donc Sudrail, nous on part plus sur une grève reconductible totale. Après, les autres syndicats ont préféré faire une grève de deux jours tous les cinq jours. Le choix leur appartient. Après, moi au niveau de mon syndicat, on est parti sur une reconductible tout de suite. Et pour imposer tout de suite le rapport de force. Maintenant, je pense que les autres syndicats, le gouvernement ne bouge pas, viendront rejoindre le mouvement Sudrail et puis passer à la reconductible totale.
Parce que j'imagine qu'en termes aussi de salaire, quoi, parce que c'est peut-être plus facile à gérer pour les cheminots dans un mouvement qui s'annonce long.
Oui, c'est sûr. Mais après, c'est sûr qu'en faisant deux jours de grève tous les cinq jours, niveau salaire, ça impacte moins. Après, en reconductible, il faut savoir que les cheminots, quand ils sont en grève, ne sont pas payés, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et c'est sûr que niveau salaire, oui, une reconductible pure, tout le temps, totale, c'est zéro salaire si on fait un mois. Donc en faisant tous les deux jours, oui, il y a un impact financier qui est moins fort qu'une reconductible totale. Mais après, le rapport de force, à l'heure actuelle, est pas trop mal en faisant deux jours tous les cinq jours. Maintenant, si le gouvernement, je disais tout à l'heure, ne cède pas, il faudra peut-être revoir la stratégie et partir sur vraiment bloquer un blocage du pays.
Vous étiez en train de me dire hors micro que la mobilisation dans les Hauts-de-France est particulièrement à une ampleur plus importante que dans le reste du pays.
Oui, donc sur l'Hexagone, on annonce un TER sur 4 et en Hauts-de-France, on est à 1 sur 10. Donc on a une mobilisation très importante sur la France. Habituellement, on le ressent plutôt vers Marseille. Et là, pour cette mobilisation, on est les plus mobilisés en Hauts-de-France avec un TER sur 10.
Quel est votre emploi au sein de la SNCF ?
Donc moi, je suis mécanicien bogie-caisse, donc je fais tout ce qui est organe de roulement et puis la visite de ma mécanique, en fait. Hein. Et je fais aussi de la réparation accidentelle sur un dépôt de Lens.
Comment on devient mécano pour les trains ?
Comment on devient ? Ben, en fait, moi, j'avais un bac pro MSMA. Donc j'ai passé les examens d'entretien pour entrer au chemin de fer. Et donc là, après, j'ai eu les formations sur le terrain et en formation dans un centre au Mans.
Et s'il y a des pannes, c'est vous le responsable ? S'il y a des pannes et des retards, c'est vous le responsable ?
Non, c'est pas moi le responsable, non. Il y a d'autres problèmes parfois sur les engins. Après, on a d'autres équipes, on est répartis avec des dépanneurs, des freinistes, des appareilleurs et donc des mécaniciens. Et donc tout ça, ça fait un ensemble, on est regroupés en fait sur une équipe qui permet de s'organiser le travail et puis de faire sortir le maximum d'engins en temps voulu.
Alors là, ce matin, vous avez entendu le président du groupe public ferroviaire. Quel rapport, quel lien faisait-il entre les pannes, les réparations des trains et le statut du cheminot ?
Alors pour Guillaume Pépi, ne plus donner le statut de cheminot, c'est diminuer le nombre de pannes. Enfin, je vois pas trop le rapport parce que il nous a dit ce matin en plus qu'on allait garder notre statut. Bon, c'est bien, c'est joli de promettre. Hein. De rien changer à tout ça, qu'on était bon. Et après, il nous dit qu'embaucher sans statut... cheminot, ça fera descendre les pannes. Alors je vois pas comment on peut être bon et puis au final on pourrait être mauvais quoi. Puisque là ils nous annoncent que quelqu'un qui aura un statut, attention, en plus il peut même pas déterminer puisque la question a été posée, il sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est un statut français qu'il a dit, voilà. Un statut lambda.
Et comment il justifie ça, cette idée qu'un cheminot non employé de manière non statutaire serait plus efficace ou...
Bah, je pense que c'est plus par la pression qu'ils vont faire par la suite. Hein. On le voit déjà chez nous. Hein. Maintenant, avant, on était bien spécialisés. Je faisais la mécanique. Par exemple, je faisais que les OR. Maintenant, je fais les pantous, je fais d'autres choses. Et je pense que ces gens-là, ils auront beaucoup plus de pression dans l'entreprise. Et ils vont faire plus que, par exemple, de la mécanique. Ils vont faire du frein et tout ça. Donc, je veux dire, c'est bien hein, la polyvalence. Mais le problème, c'est que tu peux pas entrer dans le vif du sujet de ton métier. En fait, tu as des connaissances, mais elles sont moins approfondies. Moi, je vois, on a des collègues qui font plus de pantos et honnêtement, moi, j'en fais des pantographes. Hein, j'ai des connaissances, mais pantographe, c'est ce qui est, c'est ce qui permet d'alimenter avec la caténaire ton train, en fait. Et personnellement, moi, j'ai des connaissances, mais j'ai des collègues qui eux font que ça et on voit directement la différence. Quand on voit la différence, lui, il connaît carrément tous les détails. Moi, je pourrais me faire avoir sur des bricoles. Et c'est ça aussi qui fait que malheureusement, tu vois, la polyvalence, ça a ses limites. On peut pas non plus. Allez, sur tous les domaines.
Revenons avec Franck Guérardel, représentant cheminot à la CGT, sur les enjeux du combat médiatique qui se joue.
Il y a apparemment des divergences dans les chiffres qui sont donnés, des contradictions entre ce qu'annonce le gouvernement et ce qu'annoncent les syndicats.
Oui, alors je l'ai encore rappelé tout à l'heure, hein, si vous préférez, on a des directions... qui tronque un peu les chiffres sur les taux de grévistes. Il faut savoir que maintenant on est soumis à des deux-i. Hein. C'est une demande d'intention de faire grève 48 heures à l'avance, hein, ce qui a été mis en place sous Sarkozy. Et on a aussi des cheminots qui ne sont pas soumis à des deux-i. Hein. En gros, tous ceux qui sont soumis à des deux-i, c'est pour la sécurité des circulations. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains grévistes qui n'étaient pas pris en compte dans ces statistiques. Or, les directions transmettent ces chiffres aux médias ou autres, ce qui peut fausser peut-être à quelques pourcentages, je ne dis pas que c'est des pourcentages énormes, mais quand même en pourcentage au niveau des chiffres qu'ils annoncent à la télé ou dans certaines radios.
On va dire que c'est une bataille aussi, il y a une bataille on va dire financière, mais il y a une bataille médiatique aussi qui s'annonce.
Il y a une bataille médiatique, on l'a bien compris, le gouvernement fait tout pour désinformer les usagers, enfin désinformer, je vais pas dire ça, mais retourner l'opinion, hein, dire que c'est les cheminots qui sont à l'origine, il faut quand même rappeler, c'est quand même eux qui sont à l'origine de cette réforme, c'est quand même eux qui sont à l'origine de cette dette, hein. faut quand même rappeler que toute l'infrastructure a été financée par des investissements publics, c'est-à-dire à travers nos impôts, à travers la tarification aussi des trains, hein, les villes de là aussi. Hein. Il y a toutes ces grandes questions où ils ne se mettent pas à table. Ils ne se mettent pas à table avec les différentes organisations syndicales. On l'a encore vu vendredi, 6 heures de réunion pour rien, pour que dalle. Quoi.
Alors justement, c'était quoi cette réunion? Comment elle s'est déroulée et qu'est-ce qu'il en est ressorti au final?
C'est un discours qui est à sens unique, c'est-à-dire que le gouvernement fait venir les organisations syndicales à ces réunions et nous fait un déroulement de son projet, mais à marche forcée. C'est-à-dire que le dialogue va dans un sens, c'est-à-dire il propose ça, mais les organisations proposent aussi d'autres projets pour le remboursement de la dette, pour un service de rendu aux usagers de qualité. Et là, nous, on n'est pas entendus. On n'est pas du tout entendus. Donc c'est pour ça que cette grève est reconduite aujourd'hui. Et elle sera reconduite aussi en fin de semaine.
Prochain rendez-vous le 19 avril pour une grève nationale, intersyndicale, interprofessionnelle. Pour conclure, deux questions posées à Dominique Watrin, sénateur du Pas-de-Calais, membre du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
Bien, je suis venu bien sûr soutenir les cheminots en lutte parce que je crois qu'ils se battent pour l'intérêt général. On est dans un système de plus en plus autoritaire, on le voit dans tous les domaines. Moi, j'en suis le témoin en tant que parlementaire, y compris les droits du Parlement sont bafoués aujourd'hui. Je crois qu'il est temps que les gens se révoltent, oui, et exigent que leur parole, que leur vraie vie, telle qu'elle est réellement et pas celle qu'on décrit avec des privilèges, etc., soit prise en compte. Et là, il est important de mettre en échec le gouvernement, en particulier sur cette réforme ferroviaire.
Est-ce que vous pouvez vous livrer votre analyse sur ce projet de réforme totale dans tous les ministères? Il y a des réformes et aussi sur la stratégie mise en place, une stratégie de choc, une stratégie où on veut faire les choses dans l'urgence pour justement priver la population du temps de réflexion nécessaire à la mobilisation ou à une mobilisation forte.
Alors je pense d'abord qu'il y a trois éléments. Il y a l'élément Europe. L'Europe, elle est posée. D'évidence, Macron veut être le meilleur élève de la classe libérale de l'Europe. Et si on ne le met pas en échec là, je pense qu'on va être en difficulté pour la suite. Je pense qu'il y a ensuite une attaque généralisée contre tout ce qui est dépenses publiques qu'on décrit abusivement ou tout ce qui est service public. On accable de tous les mots, effectivement, on accuse d'avoir la rage, celui que l'on veut abattre. Et le service public, je pense que beaucoup de gens dans ce pays peuvent s'y retrouver. C'est là que peut se faire la convergence. Je travaille sur les questions de santé, je sais à quel point notre système de santé est malade et notre hôpital public est malade. Il faut se retrouver ensemble. Et puis il y a la question, la démocratie. Vous savez, moi, les ordonnances, je sais ce que c'est. Je les ai vécues, les discussions, les 120 heures de débat au Sénat sur les lois travail pour les combattre avec mon groupe. Quand le FN, lui, n'était présent que 0 seconde, n'a jamais participé au débat alors qu'il se dit combattre ces lois travail. Eh bien, je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent qu'on a besoin de relais politiques pour faire avancer les choses et qu'il y a des gens qui se battent aussi au plus haut niveau de la représentation parlementaire, mais c'est vrai aussi qu'il faut changer de république. On ne pourra pas rester longtemps encore dans ce système où un président est devenu un roi et fait la pluie, le beau temps à Versailles et ailleurs, et qu'on a besoin de redonner de la démocratie, de la citoyenneté et des relais politiques à tous ceux qui se battent aujourd'hui pour plus de justice, pour le progrès social, pour le service public et pour l'amélioration de la situation sociale de ce pays.
C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle et Radio PFM.
Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Reset par Junter. C'est du 8 bits électro-instrumental. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. À présent, nous revenons de nouveau sur l'actualité sociale, mais cette fois-ci, il s'agit ni plus ni moins de harcèlement au travail et dans une organisation culturelle que nous aimons bien, puisqu'il s'agit de la Comédie de Béthune dont nous relayons régulièrement les événements théâtraux. Ce centre dramatique national ne semble pas épargné par des comportements avilissants de la part de la hiérarchie, tels qu'on les imagine plutôt dans le privé. Entre mal-être au travail et dialogue social au point mort, on en parle avec une salariée et un intermittent de ce lieu culturel. C'est un reportage de Luc.
Nathalie Somville et Laurent Leroy travaillent tous deux à la Comédie de Béthune, centre dramatique national, l'une comme chargée des relations avec le public et l'autre comme intermittent. Le 29 mars dernier, avec nombre de leurs collègues, ils ont entamé une grève totale et reconductible pour exiger une mise à plat des rapports de force au sein de la structure et une discussion sur l'éviction d'une des salariées en contrat court. Nous les avons rencontrés le lundi 9 avril sur le parvis de la gare de Lens, où ils s'étaient joints aux cheminots pour unir les forces contestataires.
On est en grève, enfin une grande partie des salariés de la Comédie sont en grève depuis 12 jours, donc le jeudi 29 mars. Donc on a été invité par des membres de la CGT de Béthune à venir à ce rendez-vous pour parler de notre lutte en ce moment.
Est-ce que vous pouvez parler des raisons de votre lutte, les raisons de la grève ?
Alors du coup, la Comédie de Béthune, c'est un centre dramatique national, donc c'est un label qui est donné par le ministère de la Culture. Donc on est un lieu quelque part de service public, on vit d'argent public puisque ce ne sont quasiment que des financements de l'État, région, département et agglo qui nous permettent d'exister au jour le jour. Par contre, on est une société privée en termes de statut. Je l'explique parce que c'est un fonctionnement assez particulier et notre directrice est une artiste qui est nommée par les financeurs, par les tutelles. Elle est arrivée depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on a affaire à des comportements un peu irrespectueux, des difficultés dans le management et dans l'organisation du travail. En 2015, on avait déjà fait une alerte aux tutelles pour dire qu'il y avait des problèmes à la Comédie en interne. On avait mis en place des choses avec la direction, mais depuis quelques mois, ça empire. Dernièrement, il y a une salariée qui était en CDD, à qui on avait promis un CDI, et au dernier moment, en fait, la direction lui a dit « Ah bah non, finalement, va-t'en ». Donc ça, c'est très mal passé, parce qu'en plus, son CDI avait été annoncé au délégué du personnel, donc voilà, il lui avait dit qu'il pouvait pas se passer de ses compétences, et puis du jour au lendemain, c'est bye-bye. Donc ça, plus les problèmes de comportement irrespectueux, voire humiliants auprès de salariés, ça a été là, les gouttes d'eau, et du coup, on a envoyé un préavis de grève le 22 mars à la direction, et on s'est mis en grève le 29 mars. Et depuis, nous sommes en grève. On a eu beaucoup de mal à dialoguer avec la direction. Le premier jour, le 29 mars, on n'a pas vu la direction avant 17h30. On tenait le piquet de grève devant le théâtre. Ils ont décidé d'annuler les représentations du spectacle qui était le 29 mars et le 30 mars. Il n'y a pas vraiment eu de discussion. En fait, ils ne nous entendent pas. Ils ne nous entendaient pas. En tout cas, là, ça a l'air de mieux se passer. Ils ne comprennent pas la grève. La directrice nous a dit avoir des points d'aveuglement sur ce qui se passait au sein de l'équipe, enfin, dans son propre comportement. Donc voilà, c'est très dur de mettre le dialogue en route et on est tous très surpris en fait de ça parce qu'on pensait vraiment pas que la grève durerait aussi longtemps. Et voilà, c'est très dur, mais on tient bon parce qu'on se bat juste pour avoir des conditions de travail dignes et respectueuses, décentes et de se parler normalement, d'être humain à être humain. C'est pas parce qu'on est patron qu'on peut parler à ses salariés comme de la merde, soyons clairs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se bat.
Donc là, c'est vraiment une lutte contre la hiérarchie. C'est propre au fonctionnement interne du théâtre et on va dire à la personne qui le dirige.
Oui, c'est une lutte assez interne et à la personne qui le dirige et aux personnes qui l'entourent. Alors, c'est compliqué. Nous, on ne remet pas du tout en cause le projet artistique parce qu'on est tous très investis. On adore ce qu'on fait, on adore nos métiers. On a pleuré quand on a annulé le spectacle. C'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on a été jusque-là. D'ailleurs, on ne pensait même pas aller jusque-là. En fait, on a déposé le préavis une semaine avant dans l'espoir qu'il y ait un dialogue. Le dialogue n'a pas vraiment eu lieu. Donc voilà, on est tous très tristes. Et c'est un peu interne. Après, je pense qu'il y a eu pas mal de lieux comme les nôtres où il y a eu des problèmes aussi de comportement de la direction vis-à-vis des salariés. Il y a eu beaucoup de théâtres ces derniers mois, ces dernières années, qui ont eu des grèves aussi. Alors peut-être que ça serait intéressant d'avoir une réflexion plus globale sur le management dans le milieu culturel, le milieu théâtral et sur la direction aussi des lieux comme les nôtres. Parce qu'il y a des abus. Je pense qu'il y a des abus.
Et où souvent les directeurs sont un peu parachutés. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça où on fait débarquer quelqu'un de la capitale dans un petit théâtre de province et...
C'est vrai que ça peut... Je ne sais pas si on peut parler de parachutage dans ces cas-là. Après, je ne sais pas. Moi, je suis pas... J'ai pas de statistiques en main pour dire si les directeurs de centre dramatique sont de la région du centre dramatique. Là, pour nous, clairement, non. Hein. Ça l'a jamais... Depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de directeur qui soit de la région qui soit arrivé à la tête de la comédie. Après, je ne pourrais pas faire de généralité, j'en sais rien. Mais peut-être que oui. De toute façon, je pense que ça sera intéressant d'avoir une réflexion globale sur le fonctionnement des centres dramatiques et des lieux de théâtre en général, et puis sur comment ils sont dirigés, en fait. Ça serait vraiment intéressant.
Le problème, c'est que on leur demande aucune compétence, quand même. Ils sont désignés, là, pour diriger des gens en n'ayant aucune compétence de management. C'est un peu bizarre, quand même.
Quelles sont les exigences ou les revendications ?
Bah, nous, ce qu'on a exigé au départ, c'était un engagement écrit de la direction de ne plus se comporter comme il faisait, avec un comportement irrespectueux, voire humiliant. Donc on voulait un engagement écrit. On voulait aussi qu'ils respectent les instances du personnel parce qu'il y a eu des écarts aussi. Enfin, par exemple, des offres d'emploi qui sont parues sur les sites internet, mais sans être avant montré aux délégués du personnel, ce qui est une obligation. Des exemples un peu comme ça. La réintégration de la personne dont je parlais qui a été un peu... qui a quitté la comédie du jour au lendemain et un calendrier très précis de réunions pour améliorer l'organisation du travail parce qu'en fait ça fait 4 ans que la directrice est à la tête de la comédie et on a dû changer 3 ou 4 fois d'organisation depuis avec des gens en co-direction en fait, qui changent tout le temps. Du coup l'organigramme change, la façon de travailler change, bref nous on ne sait plus comment travailler, on ne sait plus à qui on doit donner une information, comment le circuit de validation d'une activité, enfin voilà, qui décide de quoi, enfin voilà, on est perdu. Donc on a besoin aussi que les choses soient clarifiées et on nous dit toujours oui mais il faut comprendre, il vient d'arriver, il faut qu'il prenne ses marques, oui mais nous on doit travailler et quand on nous dit ça tous les ans ou tous les ans et demi parce que ça change, bah nous on n'en peut plus quoi, on a envie d'un truc un peu stable et qui ait du sens et qu'on nous écoute aussi parce que il y a des gens qui débarquent et ils pensent qu'ils vont tout révolutionner, qu'ils ont les bonnes idées et ils n'écoutent pas forcément les gens qui sont là depuis des années. Donc, et qui sont, voilà, on a tous des compétences à nos niveaux, même si on n'est pas cadre ou pas responsable de service, etc. On a tous des compétences et on aimerait bien qu'elles soient entendues, en fait. Voilà.
Dernière question, est-ce que vous avez des retours du public ? Est-ce que le public vous soutient, par exemple ? Ou alors, comment peut-il vous soutenir ?
Oui, on a eu des retours du public. Après, les gens sont plutôt... Ils sont plutôt avec nous. Après, il y a des gens qui sont surpris aussi, parce que comme on est des professionnels, on n'a pas forcément montré qu'il y avait des difficultés à l'interne. Donc les gens peuvent nous soutenir via une pétition qui est sur change.org. Et puis, on a un Facebook aussi. On a créé une page Comédie Béthune en grève pour noter un peu le déroulé jour par jour de ce qui se passe et des discussions avec la direction. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller sur Facebook pour se tenir au courant de ce qui se passe. Il y a le lien vers la pétition sur le Facebook, en fait. On a passé les 1000 signatures vendredi. Là, je ne sais pas combien on en est, mais voilà. On est content quand même. Ça, on voit que ça résonne aussi. Il y a pas mal de gens qui disent que ça résonne aussi dans leur cadre de travail très privé, mais sur le problème de management et de mauvais comportement en fait au sein des entreprises. On sent que c'est un gros problème. De toute façon, tout le monde en parle, les burn-out et tout ça. Nous aussi, on a des gens qui sont mal dans leur travail, qui ont la boule au ventre pour venir travailler, qui ont peur. Enfin, c'est dingue d'avoir peur, quoi. C'est fou d'avoir peur d'aller travailler, en fait. C'est pas normal. Enfin, moi, ça me semble fou rien que de le dire, en fait.
Ils arrivent dans le lieu, les larmes aux yeux, quoi. C'est pas normal. Enfin, ça devrait pas exister, ce genre de choses.
C'était un reportage de Luc Chaden pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier.
Je vous propose maintenant un court extrait d'un reportage consacré à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce reportage est également en ligne sur notre site micro-rebelle.fr et nous l'avons intitulé « Notre-Dame des larmes ». Est-ce par pur hygiénisme que la République en marche et écrase cette poche de résistance qu'est la zone à défendre du bocage nantais ? Il est difficile de comprendre cette opération militaire autrement que comme une absurde intolérance à ce qui n'est pas soumis en tant que marchandise au profit. Cette allergie à l'égard des modes de vie alternatifs d'une paysannerie aux antipodes de la rationalité industrielle a de quoi faire frémir, voire effrayer. Deux témoignages pour ce reportage. Le premier de Camille, dans l'œil du cyclone, au cœur des affrontements, enregistré le jeudi 12 avril, et le second de Touga, ex-habitant de Notre-Dame-des-Landes. En voici un court extrait.
Alors quand j'y vais à la ZAD début 2013, ces lieux existaient déjà en fait, ou étaient en train de se créer. Donc pour moi c'est vraiment des noms qui résonnent et qui ont un sens. C'est vrai que j'imaginais pas qu'ils existaient encore, ou qu'ils existeraient. La plupart de ces lieux sont concrètement en fait des habitations qui ont été construites sur place, généralement en planches en bois, donc c'est ce qu'on appelle plus simplement des cabanes. Donc les noms de lieux que tu viens de dire, c'est surtout en fait des lieux, des cabanes, des lieux de vie collectifs, quoi. Là, je peux prendre par exemple l'exemple des sans-noms, dont on a plus entendu parler dans l'actualité récemment, parce que c'est malheureusement un lieu qui s'est fait détruire lundi dernier. Donc à l'époque où j'étais, effectivement, j'ai connu certaines personnes de ce collectif et je suis allée sur le lieu des sans-noms à son début, quoi. J'ai vraiment vu l'émergence d'un projet hyper intéressant de maraîchage, d'élevage. À l'époque, ils étaient en train de monter l'éolienne qui leur permettait d'être en autosuffisance énergétique. Donc c'était vraiment un projet très chouette. Moi, l'image que j'en ai, c'est que c'était plein de vitalité, de motivation, de vraiment cette volonté de construire une vie collective d'habitation et d'activité. Alors c'est vrai que depuis 5 ans que je n'étais plus sur place, je n'avais plus beaucoup de nouvelles de ce qui s'est passé, de ce qu'il s'y passait. J'en prenais pas et puis comme je regarde pas les médias de manière générale, j'avais quelques échos évidemment par mes contacts qui vivaient sur place, mais de manière très très clairsemée. Donc cette semaine, évidemment, j'ai entendu parler malheureusement de ces expulsions et de ces destructions. J'ai pas suivi de manière assidue l'actualité parce que les médias, on va dire mainstream, m'intéressent pas. Mais quand même, quand j'ai entendu parler de destruction de lieux qui en fait résonnaient pour moi, je suis allée regarder des vidéos. notamment qui ont été tournées par des personnes qui vivent sur les lieux qui ont été détruits. Et donc là, par exemple, j'ai vu une vidéo tournée par une personne habitante des Sans Noms. Et les sentiments qui dominent, évidemment, sont la tristesse, la rage et l'écœurement. C'est pas seulement parce que ça concerne la ZAD, qui est un lieu sur lequel j'ai vécu, mais c'est aussi et surtout, je pense qu'évidemment, il y a de l'empathie. J'ai reconnu des personnes que j'avais connues. Mais je pense que c'est surtout plus général et plus symbolique. Pour moi, à travers ces vidéos et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai vraiment découvert à quel point ils sont capables de détruire en fait des années de projets en commun et de construction de maisons. Ils ont détruit vraiment du temps, de travail, de vie, de partage en détruisant ces lieux-là. Et ils détruisent pas seulement des planches en bois en fait. Ils détruisent énormément de choses et j'ai trouvé ça d'une extrême violence en fait, ces images de pelleteuses qui détruisent des maisons avec tout à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui vivent là depuis des années, c'est leur quotidien de travail, de vie, de projet politique. En fait, c'est vraiment un lieu qui concentre toutes ces composantes-là. Et c'est... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. C'est tellement révoltant que... Ouais, on s'y attendait et en même temps on s'y attendait pas. Enfin, je sais pas comment les Camilles de là-bas vont réagir. Mais ouais, c'est un coup dur, quoi.
J'aimerais bien qu'on revienne sur ce que représente la ZAD. Alors, on peut parler même d'expérimentation politique avec un objectif de construire et de vivre en autonomie, en auto-organisation, en auto-légalité, en auto-souveraineté, sans recours au système marchand, sans recours aux institutions légales et politiques. Alors selon toi, est-ce que la ZAD, telle que tu y as vécu, ouvre une brèche dans le système capitaliste ?
Alors à mon sens, de ma petite expérience personnelle, je dirais que malgré effectivement des défauts de dysfonctionnement, parce que rien n'est parfait, aucune expérimentation ne marche comme on voudrait toujours parfaitement, malgré tout ça, je dirais que la ZAD, c'est quand même un lieu où, en fait, des gens proposent une manière de vivre ensemble, de relationner, de travailler, d'avoir une activité, en fait, qui va à l'encontre de la logique individualiste, propriétaire et monétaire du capitalisme. Alors, ça peut paraître une sorte de phrase un peu grandiloquente, mais c'est pas que des mots, c'est-à-dire que c'est vraiment une zone où je pense que, alors il y a de la théorie de la pratique, je ne sais pas qu'est-ce qui va avec l'autre, qu'est-ce qui va avant l'autre, mais je crois que c'est surtout des gens qui font et qui se questionnent aussi sur leur pratique. Et ça c'est intéressant. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est des projets incroyables qui ont vu le jour, en marge du système tel qu'on le connaît, donc sans patron, sans droit de propriété, sans banque, sans salaire, sans police, sans tribunal, sans agence immobilière. Et c'est une expérience qui est quand même sur une échelle relativement assez grande. C'est pas juste un lieu avec une dizaine de personnes, c'est plusieurs milliers d'hectares. Et c'est un lieu qui existe et qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc en ça, c'est assez incroyable. Voilà, donc chaque lieu a son autonomie. Et il y a vraiment l'envie de discuter du fonctionnement global de la zone, collectivement, donc à travers les réunions hebdomadaires de ZADIS dont je parlais tout à l'heure, pour quand même avoir un lien entre toutes ces structures un peu autonomes. Donc pour parler des projets, des différentes situations, pour solutionner des conflits s'il y en a, et pour organiser des actions de lutte. Alors évidemment, tout ne glisse pas comme sur des roulettes, parce que parmi cet ensemble de personnes, évidemment, tout le monde n'a pas la même vision politique et la même manière de voir l'organisation, en fait. Après, moi, personnellement, effectivement, j'ai vu de l'entraide entre des paysans, paysannes, qui venaient en tracteur pour aider à transporter du matériel de construction pour des cabanes, de gens qui n'ont rien à voir avec le milieu agricole, quoi. Donc ça, c'est des choses concrètes que j'ai vues. Et effectivement, à l'époque où donc c'était avant l'annonce de l'arrêt du projet, Il y avait cet objectif commun de lutte contre un grand projet inutile, et même si les manières de lutter étaient différentes, il y avait quand même un terrain d'entente qui était possible sur comment s'installer et comment essayer de communiquer ensemble, quoi. Moi-même, en fait, j'ai eu la chance de le vivre quand je participais à la construction de la cabane Puy Plus. J'ai aussi pu passer un moment avec un paysan et une paysanne sur leur exploitation. Donc c'était des personnes qui étaient là avant, en fait, l'annonce du projet, et qui sont restées sur place.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.